Je donne tout de suite la parole à Max Angamar, qui a rédigé une thèse en histoire de l'Église, qui porte le très beau titre « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, le cantique des cantiques à la Renaissance », publié chez Drau, et il est actuellement le directeur des éditions Drau. Et il a également édité notamment des sermons de Calvin sur la Genèse et sur Ésaïe.
Merci. Bien imprudemment, j'avais accepté de parler de Joseph. Alt testamentaire, que venais-je faire dans cette galère, même construite par un charpentier ? Puis, Joseph, il faut que je... Ça, c'est pas le mien. De... Non ? Alors, je laisse en suspens comme cela, mais c'est vrai que c'est pour un parpaillot que je suis, cette immersion dans une piété et une des études sur Joseph a beaucoup de... me surprend, me conforte dans ma foi parpaillotte. Donc c'est au moins un aspect positif de ce colloque où j'apprends évidemment beaucoup sur Joseph. Et puis... Voilà. Alors, mon titre, des chaussettes aux sandales, ça aurait pu être aussi des pantoufles aux sandales. Vous allez comprendre. Donc, je me suis embarqué. Anne-Catherine m'a demandé, puisqu'il semblerait que je n'ai pas dit trop de bêtises sur Nicodème, si je voulais faire quelque chose sur Joseph. Et je me suis embarqué. À partir du moment où j'ai commencé à penser à Joseph, à Pont-Aven, au moment de Noël, j'ai été plus attentif à cette église Saint-Joseph et au vitrail. Et puis, ensuite, en février, j'ai participé à un colloque, le grand colloque du 500e anniversaire de l'introduction de la réforme en Suisse, à Zurich, et nous étions logés à l'hôtel Saint-Joseph. C'était trop, les clins d'œil étaient trop forts. Le mois d'après, je suis à... Et il fallait que je fasse ça en fin de journée, parce que, voilà, vous faire rire un peu. Mais je skiais avec ma fille à Valois, et nous étions devant la cabotte de Joseph, parce que qui dit Joseph ne dit pas seulement le patriarche et l'époux de Marie, mais dit des tas d'autres Joseph. Donc je me suis dit que j'avais mérité un bon coup de gros rouge et que j'allais maintenant être prêt à travailler sur Calvin. Et de Calvin, vous verrez que je glisserai vers Théodore de Bèze et un catholique de la même époque pour aborder une question qu'on n'a pas encore tout à fait abordée, la question de la double nature par rapport à Joseph. Et ce sont nos protestants qui vont nous amener là. Calvin écrit un traité des reliques qui paraît en 1545. C'est la période chez Calvin entre 1541 et 1545. Alors, Anne-Catherine m'a dit, vous n'oubliez pas que vous ne parlez pas à des 16e, mais si je dis Calvin, vous voyez de qui il s'agit quand même, hein. Donc, il publie pendant quelques années, énormément en français. Tous ses premiers textes sont des textes latins, du privilège de la Bible d'Olivetan, seul texte latin avec un poème dans la Bible de 1535, la première institution de 1536, l'épître à Sadolet, enfin, tout ce qu'il écrit pendant les 5-6 premières années de son activité. Et depuis le commentaire du De Clemencia de 1532, c'est du latin. Et là, pendant 3-4 ans, il va s'adresser aux Français surtout, à ceux qui temporisent, qui hésitent. C'est pour ça qu'il y a ce traité contre les Nicodémites dont j'avais parlé il y a un an et demi. Donc, contre les libertins, ceux qui sont au milieu des catholiques, comment doivent-ils se comporter ? Et Calvin, dans ce traité des reliques, qui vient à la fin de cette période, de 4 ans, on peut dire, depuis le petit traité de la Sainte-Seine jusqu'à ce traité des reliques. Ensuite, il écrira surtout en latin et il y aura toujours un amanuensis, un secrétaire qui traduira en français. Donc, le traité des reliques est dans ce traité Calvin s'amuse et il s'en prend 3 fois à des reliques concernant l'époux terrestre de Marie. Alors, j'ai été obéissant, je n'ai pas fait d'exemplier papier et vous n'avez les textes seulement à l'écran. Or, quand la Vierge Marie aurait été une géante, à grand-peine eût-elle porté une si grande chemise, et pour lui donner meilleur lustre, on porte quand et quand les chaussettes Saint-Joseph, qui seraient pour un petit enfant ou un nain. Ce qui est d'ailleurs intéressant d'avoir des reliques, alors qu'on est en train de développer une piété à Joseph, et on a à côté des reliques en le montrant encore tout petit, puisqu'on a des toutes petites chaussettes. Le proverbe dit qu'un menteur doit avoir bonne mémoire, de peur de se couper par oubli. Ils ont mal gardé cette règle quand ils n'ont pensé de faire meilleure proportion entre les choses du mari et la chemise de la femme, puisque Marie avait en effet grande robe. Qu'on aille maintenant baiser bien dévotement ces reliques, lesquelles n'ont autre apparence de vérité. Or, ils font accroire à Saint-Luc qu'il en peignit 4 à Rome, au lieu où est maintenant l'église de Sainte-Marie qu'ils appellent Inviolata. L'une se montre là en un oratoire, laquelle il fit, comme ils disent, à sa dévotion avec l'anneau duquel Saint-Joseph l'avait épousée. Alors, Calvin ne nous dit pas à l'endroit, enfin si, là, il nous dit où est-elle, dans cette église. Je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé mention de ces reliques. Et si l'un de vous, quelqu'un spécialiste de la piété médiévale et de la fin du Moyen-Âge, peut savoir, me dire où il y a ces chaussettes, bon, peut-être un peu mité aujourd'hui, je vous l'accorde, ou l'anneau. Et puis, troisième mention, et Calvin s'amuse comme moi aussi, moi après lui, avec les pantoufles Saint-Joseph et ses os. C'est la petite remarque marginale. Je laisse à parler de Saint-Joseph, dont les uns en ont des pantoufles, comme en l'abbaye Saint-Simon de Trèves. Les autres, ces choses, comme nous avons déjà dit, les autres, ces ossements. Il me suffit de l'exemple que j'ai allégué pour découvrir la sottise qui y est. Les 3 mentions de Joseph dans le traité des reliques sont articulées et viennent les unes après les autres. Elles concernent l'anneau nuptial et puis les chausses ou chaussettes et pantoufles de Joseph. Donc je n'ai pas trouvé trace de ces reliques et même essayé, mais je ne suis pas un spécialiste. On ne peut pas être spécialiste de tout, et donc de ces traités de reliques ou de traités. Du coup, j'irai voir ce traité sur Saint-Joseph de 1512, je crois, dont on a parlé, pour voir s'il y est fait mention d'une quelconque relique. La critique des reliques ne fut pas propre à Calvin, ni même au XVIe siècle, puisqu'on en trouve sous la plume des médiévaux, chez Guibert de Nogent, Bernardin de Sienne. Thomas à Kempis raillait ceux qui courent en divers lieux pour visiter les reliques des saints, en citant Marie, mais sans mentionner Joseph. Augustin se moquait déjà des coureurs de rogaton. À l'époque moderne, Érasme usa de sarcasme envers des adorateurs de reliques. Calvin s'est d'ailleurs un peu inspiré de la critique d'Érasme, mais celle qui vient de l'Inquiridion Militis Christiani et pas des textes d'Érasme plus tardifs où il est moins critique vis-à-vis des reliques. Rabelais aussi et tant d'autres. Quand on regarde maintenant dans l'institution de la religion chrétienne, il n'y a qu'un seul passage. Alors, il est là. Normalement, je vous dirais, vous le lirez chez vous, comme on dit quand vous avez l'exemplier papier. Là, ça sera plus difficile, vous pouvez prendre La référence, c'est dans l'institution, le livre 4 aujourd'hui, mais c'est la distribution de 1559, alors que c'est un passage que Calvin ajoute dans l'édition de 1543, traduction française 45. Donc c'est intéressant de voir que le seul passage contre les reliques, d'une manière générale et sans parler de Joseph, se fait exactement au même moment où il va écrire ce traité sur les reliques. Ensuite, là aussi pour la version papier, je montrerai quel terme Calvin et comment il utilise le mot relique dans l'institution pour d'autres choses que les reliques des saints. Mon deuxième point, c'est celui sur la paternité de Joseph. Parce que, après avoir regardé cela, évidemment, j'aurais été dans les temps, j'aurais parlé 8 minutes et je vous aurais dit Calvin s'est moqué de Joseph, je vous remercie de votre attention. Je me suis dit que c'était un peu court. Donc, j'ai voulu regarder comment Calvin citait Joseph dans des sermons. C'est qu'il y a chez Calvin une harmonie évangélique et il va donner un commentaire de cette harmonie évangélique. Il va donner des sermons sur cette harmonie. Donc, c'est ce que j'ai regardé et cherché, surtout évidemment autour de Matthieu, Luc 2, sur ces passages. S'il parle évidemment de Joseph dans Matthieu 13, improbable, je ne pouvais pas tout relire l'impossibilité d'un développement particulier de Calvin. Donc, dans son harmonie évangélique, un passage sur la généalogie de Matthieu. Donc, on va retrouver des questions, évidemment, qui ont déjà été abordées là. Or, cependant, notons combien qu'ici, les deux évangélistes parlent de la lignée de Joseph et non point de la Vierge Marie, toutefois que de l'un, on peut recueillir l'autre, c'est à savoir combien que Jésus-Christ soit descendu de la race de David, toutefois qu'il n'a point été fils de Joseph. Et de fait, cela est exprimé par tous les deux. Saint Luc dit qu'on le tenait pour fils de Joseph, et en cela, il montre qu'il ne l'était point à la vérité. La mention permet à Calvin d'insister encore. Saint Matthieu dit, dont est venu Joseph, Marie de Marie, laquelle a engendré Jésus-Christ. En cela, nous voyons qu'ils ont bien voulu testifier que Jésus-Christ n'était point descendu de la race de David à cause qu'il fût fils de Joseph. Et comment donc pourrons-nous juger par l'histoire présente que c'était celui qui avait été promis tant à Abraham qu'à David? Ça a été une chose commune de ce temps-là, que chacun prenait femme en sa lignée, comme aussi la loi y était. Donc on a vu la qualité d'orateur, de rhétoricien d'Augustin. Chez Calvin, c'est pas mal aussi, pour arriver à démontrer que Jésus n'est pas fils de Joseph. Le chapitre 2 de l'évangile de Luc est plus problématique, puisqu'il est parlé plusieurs fois du père de Jésus. Dans le 31e sermon sur Luc 2, 28-33, Calvin traduit d'abord le verset 33, « Et son père et sa mère étaient émerveillés des choses qui étaient dites de lui. » Tout le sermon est consacré à ces 6 versets. Quand Calvin commente le verset 33, il mentionne Joseph et Marie, puis seulement l'enfant. Ils étaient émerveillés sur toutes les choses qui étaient dites de l'enfant. C'est comme ça qu'il recite le verset dans la prédication. Le prédicateur n'utilise pas les mots de père et de mère, évitant de rappeler une paternité de Joseph qu'il lui dénie. Et je pourrais vous citer, et je vous donnerai dans la version écrite, un certain nombre de textes comme cela, où c'est très clair que Calvin dénie à Joseph une quelconque paternité que ce soit. Pendant que je parle, vous pouvez lire celle-ci. Nous pourrions nous arrêter ici, puisqu'au sermon 47, Calvin distingue à nouveau Joseph et Marie en revenant sur ce verset de Luc 2, 48. Et nous avons vu par ci-devant qu'il était sujet à Joseph et à sa mère, ainsi qu'il est bien vraisemblable que toujours il a vécu du même métier de charpentier, comme de fait on lui a reproché qu'il était un charpentier. Tant plus donc devons-nous être avertis de cheminer en toute humilité. Calvin, une nouvelle fois, glisse sur la paternité de Joseph, qui n'est que le charpentier qui apprendra un métier à Jésus. Plus précisément encore, dans son commentaire à l'Harmonia Evangelica, Calvin termine son explication de Luc 2, 41 par ces mots « Ceterum nomen patris a Joseph improprié transfertur et vulgari hominum sensu. » Hein, du reste, le nom de père est transféré à Joseph d'une manière impropre par la conception ordinaire des hommes. Donc là, maintenant, avec Calvin, j'ai fini. Il n'y a rien d'autre à dire sur le passage. On a des sermons où on a le passage sur Joseph, père, et Calvin, après avoir traduit le verset, part sur toute la relation du Christ, du Fils, avec le Père éternel. C'est-à-dire qu'il a complètement occulté ce moment humain terrestre. Depuis Lausanne, en 1556, Théodore de Bèze, vous voyez qui est Théodore de Bèze, quand même un peu le successeur de Calvin à Genève, mais qui, ayant quitté Paris en 1549, s'installe à Lausanne, où il va être professeur de grec. Depuis Lausanne, en 1556, Théodore de Bèze va user d'une autre doloire et d'une vieille gouge pour dégager une explication peu calvinienne. Joseph, père du Christ. En Luc 2, 33, Théodore de Bèze, dans sa première édition des Annotationes Majores, sur le Nouveau Testament, donc chez Robert Étienne en 1556, n'offre pas encore le texte grec. On n'a que le texte latin, mais c'est une nouvelle traduction latine, puisqu'on avait celle de Panini pour l'Ancien Testament. C'est une nouvelle traduction que donne Théodore de Bèze, mais sans avoir encore édité le texte grec. Il traduit « Pater autem et mater eius mirabantur superiis quae dicebantur de eo » sans annotation. C'est en fait en commentant Luc 2, 27 que Bèze va oser une expression peu courante sous les presses genevoises. Il traduit tout d'abord le verset « Is igitur venit impulsore spiritu in templum et cum inducerent puerum Iesum parentes ut facerent secundum consuetudinem legis proeo. » Hein, c'est le fait que les parents de Jésus viennent au temple pour faire ce que la loi ordonnait. Il s'agit donc de Siméon qui vient au temple poussé par l'Esprit pour voir le Messie promis. Alors que les parents, eugenes, de Jésus l'amènent pour le consacrer à Dieu. Alors, vous avez le texte latin, je vous le traduis. Les parents, eugenes. Le PowerPoint ne m'a pas pris les esprits, ni les accents. Pardon, vous l'aurez sur le texte écrit. C'est ainsi qu'on trouve écrit l'expression dans tous les manuscrits, dans ce verset et dans un autre peu après, c'est au verset 41. Il ne fait pas de doute que l'évangéliste considère l'opinion commune plutôt que la chose elle-même. En effet, comme il le rappelle ensuite, Joseph était considéré comme le père du Christ, hein, Christi Pater, ou Patré là dans le texte. Et peu après, au verset 33 et 48, il est appelé ainsi. Cependant, comme le dit joliment Grégoire de Nazianze, le Christ, en tant qu'il est Dieu, se manifeste sans mère, hein, le a materor, et puis en tant qu'il est homme, sans père, a pator. Je crois qu'on ne l'a pas encore vu, ces occurrences. Et inversement, parce qu'il est un, Il a un père et une mère, mais le Christ est Dieu, et il est aussi cet homme, parce qu'en lui-même, les natures opposées ou diverses et séparées sont unies. Ce n'est ainsi pas pour cette raison que les ébionites, c'est une secte ascétique judéo-chrétienne primitive, ou d'autres hérétiques ont conclu de ce verset et d'autres semblables que Jésus fut fils de Joseph. La version de la Vulgate a ajouté l'adjectif « son » à « autu ». En tant que Christ est Dieu, il est sans mère. En tant qu'il est homme, il est sans père. En effet, Grégoire de Nazianze, d'une manière très synthétique, nous définit bien ce Jésus et le rapport à ses parents. Théodore de Bèze s'appuie sur la double nature du Christ et sur une expression de Grégoire de Nazianze pour affirmer que Joseph est père de Jésus, Jésus-Christ, hein, c'est Christi Pater, alors qu'il avait commencé son argumentation en estimant qu'il ne faisait pas de doute que l'évangéliste avait considéré l'opinion commune plutôt que la réalité. Hein, c'est ce qu'il nous dit. Il n'en demeure pas moins qu'il appelle Joseph père du Christ. L'expression est osée, peu calviniste, pour un helléniste enseignant alors à Lausanne. Bèze n'arrivera à Genève qu'en 1558. In ipso diversae distincte quae naturae coaluerunt. Jamais Calvin ne parle ainsi de la double nature du Fils. Dans un chapitre essentiel de l'institution, c'est le 2.14, rédigé dès 1536, complété après l'affaire Servet, donc de 1553, dans l'édition de 1559, Calvin a montré comment les deux natures sont une seule personne au médiateur. Quomodo due naturae mediatoris efficient personam. Calvin n'utilise pas distincta et une seule fois diversa, et encore dans la comparaison pédagogique qu'il fait entre la double nature chez le Fils et l'âme et le corps chez l'humain. L'adjectif « diversa » et l'expression qui le contient ne sont d'ailleurs pas rendus en français. C'est un passage de l'institution, c'est lui qui se traduit lui-même, et il n'a pas rendu ça en français. Donc c'est intéressant de mettre le point sur cela. Bèze utilise un vocabulaire qui lui est propre, et vous allez voir comment ça va devenir emberlificoté dans les années qui viennent. En voulant tenir la double nature et le Christi Pater. D'une certaine manière, Calvin spiritualise immédiatement la double nature, ne mentionnant qu'en passant, mais à l'initiale de sa démonstration, que la parole a pris chair dans le ventre de la Vierge. Il le dit bien, mais juste en passant. C'est Jean 1,4, « Verbum carnem esse factum », « La parole a été faite chair », qui est le point de départ de sa réflexion et de sa démonstration sur la double nature du Verbe, en relevant les textes scripturaires qui confirment celle-ci. Retour à Bèze, après ce petit passage, pour montrer que Calvin est vraiment, dans l'expression et dans la pensée, quelque chose de tout à fait différent que ce que Bèze nous propose. Pour justifier son emploi de père de Christ, Bèze s'appuie sur la réitération au verset 33 et 48 du mot « pater ». Au verset 48, Luc utilise en effet l'expression « o pater su »,« pater tus » en latin, alors qu'au verset 33, si la Tralatio communis, je n'aime pas utiliser « vulgate » avant la vulgate du Concile de Trente et la Sixto Clémentine, donc je préfère « Tralatio communis », propose « pater eius ». La tradition grecque se partage entre « o pater »,« aoutou » et « Joseph ». Au verset 33, Erasme a simplement proposé « o pater kai e meter aoutou », traduisant en latin « pater et mater eius ». Étienne, dans son grand Novum Testamentum de 1550, Robert Étienne, pardon, donne « Joseph kai e meter aoutou ». En ajoutant en marge la variante « au pater ». Vous voyez, donc, c'est Joseph ou c'est le père. Et on a les deux possibilités qui sont offertes et ce que donne aussi bien Bèze que Robert Étienne. En 1565, Bèze est maintenant à Genève depuis 7 ans. Calvin est mort l'année précédente et il est devenu le patron, le modérateur de la Compagnie des Pasteurs, c'est-à-dire pendant toute sa vie, il va être le chef de la Compagnie des Pasteurs. Il donne chez Henri Étienne la seconde édition de ses Annotationes Majores du Novum Testamentum, complétée du texte grec, qui reste celui de 1550, donc le texte que Robert Étienne avait donné à Paris en 1550, avec la traduction latine de Bèze, « Pater autem et mater eius ». La longue note du verset 27 est présente quasi ne varietur, si ce n'est un infime ajout. In ipso diverse distincte quae naturae, hein, c'est ce que vous avez là, in unam personam coaluerunt. En lui-même, les natures opposées et séparées en une personne sont unies. Hein, donc il a eu la volonté d'ajouter, de continuer à réfléchir, et ce n'est pas terminé. Ce léger ajout sur la double nature du Christ en une seule personne est toutefois essentiel, car il témoigne que Bèze a relu son texte et n'a pas été gêné par Christi Pater, qu'il avait osé 9 ans plus tôt. Cela ne semble pas avoir été ni vu ni discuté avec Calvin. Le grand helléniste Isaac Casaubon a lu d'ailleurs et copieusement annoté l'édition de ces Annotationes Majores, malheureusement rien sur ce passage, alors qu'il avait annoté avant et après. En revanche, la dernière édition du Vivant de Bèze, en 1598, a substitué 2 mots, sit pour existat, et c'est vrai que c'est mieux, et coniam pour quia, et a surtout modifié la phrase allongée en 1565 sur la double nature du Christ, qui devient « coniam assumpta humana natura in assumente filii persona nam per se substitit ». Puisque la nature humaine est endossée en assumant la personne du Fils, j'essaie de traduire ce latin un peu emberlificoté, elle demeure en effet par elle-même. C'est une phrase dont la limpidité n'est pas très apparente. En 2 étapes, Bèze a modifié l'expression sur la double nature du Christ, parce qu'en lui-même, les natures opposées et séparées sont unies, dans une formule finale plus complexe. Ce que Calvin n'avait pas fait, Bèze l'exprime en pensant la double nature dans le contexte de la paternité de Joseph. Calvin, dans le même chapitre de l'institution déjà évoqué, a utilisé un vocabulaire différent de celui de Bèze, « assumpta est carna, non persona », encore 3 fois dans l'institution, « ab assumpta carne hein, ». Donc c'est vraiment la chair qui est assumée et ce n'est pas la personne. Et là, je quitte un tout petit moment mes héros, pas tout à fait, parce qu'ils vont critiquer ce jésuite. En 1596 et 97, à Pont-à-Mousson, parurent les 2 tomes des commentaires sur les 4 évangiles du jésuite espagnol Juan Maldonado, ou Maldona, virulent polémiste anticalviniste qui enseigna la théologie à Paris et à Bourges. Dans sa séance du vendredi 13 juillet 1599, la Compagnie des Pasteurs de Genève s'en prit aux écrits de Maldona, puisque les Annotationes de Bèze étaient vivement critiquées, aussi bien par Maldona que par un autre, Thomas Stapleton, qui venait aussi de publier un livre contre Bèze. La Compagnie prit acte que Bèze se chargeait de répondre aux polémistes catholiques. Si nous ouvrons ce commentaire de Maldona en Luc 2, 27, 33 et 48, on ne trouve aucune attaque directe contre Bèze dans ces passages. Bien au contraire, dès la mention des parenthèses au verset 27, Maldona commente, je vous le traduis, « Ainsi Marie elle-même, qui n'ignorait pas qu'elle avait été fécondée non par Joseph, mais par le Saint-Esprit, appelle plus bas au verset 48, Joseph, père du Christ, et l'évangéliste au verset 33, de même. D'autres, et parmi eux Origène, disent que Joseph a été appelé père honoris causa. » Ça, patrem honoris causa Josephum vocatum, c'est quand même pas mal. Hein, vous n'aviez jamais entendu que Joseph était pater honoris causa. Je crois que c'est une distinction qui va avoir un certain succès. Donc, et je continue, parce qu'il fut l'éducateur du Christ. Voilà aussi mon intérêt pour Nutritius, avec cette mention, grâce à vous, maintenant, je sais que ça remonte à Jérôme, donc c'est à Augustin, non, à Jérôme. Voilà, je l'ai noté déjà dans ma machine. Donc, comme nous avons l'habitude d'appeler mères, non seulement celles qui nous ont engendrées, mais aussi celles qui nous ont allaitées et nourries. Hein, donc, c'est intéressant de voir comment on arrive à glisser. On est avec un jésuite, là. Mais il est en effet Joseph et père honoris causa. En appelant Joseph Christi Pater, le jésuite rejoint les pères et même Origène, mais également le pasteur calviniste Théodore de Bèze. En commentant le verset 33 puis le verset 48, Maldona répétera d'ailleurs son propos. On avait déjà chez Denis le Chartreux cette mention de Christi Pater, alors qu'Érasme, dans les annotations de son Nouveau Testament, parle de Jésus Pater. Ce qui est rare. A contrario, le réformé Daniel Heinsius donna au début du XVIIe siècle des Sacrarum Exercitationum at Novum Testamentum Libri Venti. Dans ses remarques sur le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, l'helléniste n'évoquait pas la paternité de Joseph, le mentionnait par son seul nom, mais appelant Marie Virginem Sanctissimam et Matrem. Sans polémiquer contre quiconque, Heinsius a adopté une position calviniste stricte qui ne mentionne pas Joseph comme père de Jésus. Alors que Grotius, 2 ans plus tard, expliquera la présence de Joseph, beau-père, comme parent, d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que dans une question d'héritage, vous verrez ça dans la note, dans une question d'héritage, une belle-mère peut hériter exactement comme une mère, un beau-père comme un père. Enfin, un beau-père, oui, comme un père. Pour finir, des chaussettes aux sandales. Quand Joseph est dit père, sa paternité est liée au Christ et non à Jésus, pour la plupart. Surtout pour la tradition patristique, on l'a vu, étant encore chez les modernes, Théodore de Bèze et Juan Maldonado, Jean Maldona. Tant Calvin qu'une stricte obédience calviniste a évité l'expression en écartant la paternité terrestre de Joseph. On a vu avec Bèze que son adoption de Christi Pater amenait des formules alambiquées sur la double nature du Christ. D'aucuns pourraient souligner des relations différentes au Père chez Calvin et chez Bèze. On pourrait aussi ajouter chez Érasme, vous savez qu'il était fils d'un prêtre et il était malheureux d'être un bâtard, c'est une tare qu'il a portée. Donc on pourrait voir les pères, entre les pères de Calvin et Érasme d'un côté et celui de Bèze de l'autre, celui du second, une génération plus tard, se montrant plus accueillant et compréhensif. Psychopédagogue de formation lointaine, j'éviterai toute projection et même une analyse clinique posthume. Quoique, et c'est ce que je veux relever, la figure de Joseph nous renvoie à une attitude paternelle confiante et bienveillante qui élève et qui n'abaisse pas. Pater honoris causa est l'expression et celle d'un jésuite. Joseph a bien mérité les sandales, non de Mercure, mais celle dont parle l'apôtre en Éphésiens 6,15, les sandales du zèle de l'évangile de paix. Et je vous montre une sandale peinte par Georges de la Tour pour les Carmes Deschaux, évidemment étonnant, les Carmes Deschaux avec une sandale, car Robert Campin ou ses copieurs ont chaussé Joseph de chaussures en cuir à haute semelle de bois, trop luxueuses pour un charpentier, même pater honoris causa. Je vous remercie. Thank you.